Bienvenue à notre balado, le temps d'une pause RH, co-animé par Nicolas Roy, vice-président chez EPSI et ses RHA, et Sylvain Tessier, président chez ST Marketing. La gestion des ressources humaines peut parfois être complexe, mais prenons le temps, une pause à la fois, d'en discuter autour d'un café. Nicolas Roy et Sylvain Tessier rencontrent à chaque semaine des spécialistes ou des entrepreneurs et discutent sur des enjeux en matière de gestion des ressources humaines. Chaque épisode contient des conseils à intégrer dans votre quotidien, des informations qui vous feront réfléchir sur ces enjeux et des idées qui stimuleront des discussions quant à votre organisation et vos approches. Bonne écoute!
Bonjour, bienvenue au temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy et aujourd'hui en compagnie de mon collègue Sylvain Tessier. Bonjour Sylvain.
Bonjour Nicolas, comment ça va? Est-ce que le changement d'heure t'a déprimé ou ça va bien?
Non, en fait, le changement d'heure ne m'a pas déprimé, quoique mes enfants se lèvent une heure plus tôt, donc à 4 heures du matin au lieu de 5 heures. Mais ceci étant dit, ça fait partie de la vie, comme on dit. Hein? Puis l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Donc pour ça, je pense que mes enfants ont bien compris ce concept-là. Et aujourd'hui, on va parler d'approche par compétence puis d'approche par talent. Puis on a la chance et le plaisir d'accueillir sur le balado Mme Annick Demers, qui est consultante principale en gestion de talent, qui est aussi membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, qui est coach en gestion et qui est leader en rôle conseil spécialisé dans l'évaluation des forces et des stratégies de développement des compétences. Annick Demers, bienvenue au temps d'une pause RH.
Bonjour à vous deux, merci de l'invitation.
Bienvenue à pour nous. Bienvenue. Et aujourd'hui, c'est ça, comme je mentionnais, on va parler par l'approche par compétence puis l'approche par talent. Et je pense que la première chose qu'on peut faire pour lancer le balado, c'est vraiment d'asseoir deux belles définitions de ce qu'est l'approche par compétence puis ce qu'est l'approche par talent. Donc, Annick, dans ton expérience comme telle, est-ce que c'est possible pour toi de décrire ou de définir l'approche par compétence dans un premier temps?
Ben oui, c'est des concepts qui sont, disons, assez globaux en tant que tels, pour lesquels il n'y a pas de consensus sur une définition qui est propre. Mais si on comprend mieux dans un premier temps ce qu'on veut dire par talent, entre autres, le talent, généralement, ça va signifier un don, quelque chose qui facilite l'apprentissage, la performance et qui serait précurseur de l'excellence. Donc, ce serait quelque chose de nature héréditaire, mais qui pourrait se développer. Donc, le talent, quand on le mêle à des savoirs, à des habiletés, à des expérimentations, ben ça mène à des compétences. Puis une compétence tout seul, ben ça, on pourrait le définir comme une caractéristique d'une personne qui, elle, est directement reliée à de la performance dans un emploi. Donc, quand on dit agir avec compétence, par exemple, ça veut dire vouloir, savoir et être capable de le faire, pouvoir aussi le faire. Donc, c'est un concept multidimensionnel qui inclut la notion de talent. Fait qu'après ça, quand on parle d'approche, ben c'est de se dire, finalement, comment je gère soit les talents ou soit les compétences. Donc, l'approche par compétence, entre autres, ben c'est une démarche structurée de développement organisationnel qui va partir des stratégies de l'entreprise pour découler c'est quoi les objectifs, les résultats qu'on s'attend maintenant et dans le futur et c'est quoi les comportements, les attitudes qui sont nécessaires. C'est de là que va découler des compétences qui, généralement, dans les bonnes pratiques, ben on va associer à un référentiel connu et reconnu qui a été là, évidemment construit là, de manière empirique. Puis du côté des talents, ben, il y a différents aussi registres de vocabulaire, dans le fond, pour définir les talents. Puis on va parler d'approche talent généralement pour regrouper un ensemble de pratiques de gestion des ressources humaines pour recruter, mais aussi maintenant développer, fidéliser la main-d'œuvre. On va parler par exemple de gestion des talents, d'acquisition de talents. Donc, c'est un terme là, qui est, disons, assez populaire, puis qui est peut-être un petit peu moins structuré et structurant à la base que l'approche par compétence, qui est vraiment une pratique de gestion très reconnue. En fait, c'est une des stratégies les plus efficaces en gestion des ressources humaines pour augmenter la performance organisationnelle.
J'aurais peut-être une petite question d'entrée de jeu sans trop élaborer là-dessus, mais ça m'a popé, là, comme on dit. Est-ce que au niveau compétence, on veut dire aussi qu'il peut avoir un potentiel latent? C'est une compétence qui est exprimée, il peut avoir un potentiel latent, c'est-à-dire c'est comme une aptitude qui pourrait être développée en vue de développer une compétence. Est-ce que ça comprend ça aussi?
Bien, c'est intéressant ta question, puis il y a plusieurs débats en lien avec cette notion-là de talent, de compétence. En fait, le potentiel inné, est-ce qu'on le définit comme, par exemple, une force que je n'ai pas encore actualisée en compétence? Donc, par exemple, moi, je peux être gentille et généreuse, mais ça sert à quoi dans mon emploi? Donc là, je peux l'actualiser en compétence, qui va, par exemple, peut-être être le service client, peut-être dans la mobilisation. Donc, des fois, on va parler de potentiel en lien avec des forces. Dans d'autres cas, par exemple, ça peut être en lien avec des aptitudes, un potentiel. Ça peut être intellectuel, mais ça peut être aussi en lien avec des habiletés, des savoir-faire aussi. Donc, oui, il y a la notion de qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on sait qu'on possède, puis qu'est-ce qu'on a aussi eu et ou l'opportunité future d'exprimer.
De le découvrir au travers de certaines situations, des fois. C'est des...
Oui, okay. Tout à fait, effectivement.
Si on revient un peu, on a parlé d'une des bonnes pratiques au niveau de l'approche par compétences, c'est d'avoir un même référentiel de compétences au sein d'une organisation. Est-ce que c'est possible, Annick, d'élaborer un petit peu plus sur ce que ça veut dire concrètement, par exemple, pour une chef ou un chef d'entreprise qui souhaite intégrer l'approche par compétences dans son organisation?
Oui, un référentiel, en fait, c'est vraiment un... Moi, j'aime utiliser l'image d'un dictionnaire. En fait, c'est pour s'entendre tout le monde sur les mêmes termes. L'autonomie, par exemple, c'est un terme pour lequel on a tous une conception de ce que peut être l'autonomie, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les comportements qui font en sorte qu'on va définir une personne autonome? Donc, un référentiel de compétences, généralement, c'est une étude, justement, des études qui ont été faites pour arriver à déterminer, justement, donner une définition qui est claire, qui est limpide, qui est aussi distinctive, hein, les compétences des unes des autres pour arriver à ça. Donc, par exemple, on utilise généralement, nous, le référentiel de compétences là, de HRID, donc, où il y a 60 compétences différentes qui sont réparties dans différentes catégories distinctes. Donc, un référentiel de compétences aussi va non seulement avoir la définition, mais des indicateurs de performance. Mm-hmm. Donc, généralement, pas 15, mais pas 2 non plus. 6 ouais. va être une moyenne. On va même aller jusqu'à définir à quel point c'est difficile de développer la compétence. Puis ça, Sylvain, en lien avec ta question, c'est important parce que le potentiel de développer la compétence aussi, bien, on va dire est-ce que la personne a l'environnement positif pour développer son potentiel. On va prendre en considération aussi le niveau de difficulté de développer la dite compétence. Être organisé, c'est assez facile à développer parce que ça demande des savoirs, de la discipline. À l'inverse de prendre des décisions, réfléchir avec jugement, là, on est dans des aptitudes qui sont beaucoup plus difficiles à développer à la base puis qui nécessitent des environnements très précis pour qu'on puisse voir potentiellement là, des améliorations.
J'imagine qu'une des variables, c'est il y a aussi le style... relationnel ou le style de leadership ou la personnalité de la personne avec laquelle tu vas interagir qui prédispose quelqu'un à se développer. J'imagine qu'il y a un lien important là-dedans dans quel environnement relationnel ou de management elle interagit, cette personne-là.
Tout à fait. On suppose qu'avec les meilleures pratiques en sélection de personnel, là, on peut mesurer là, à peu près 60 % de la performance future en emploi. Ça veut donc dire qu'il y a 40 % là, qui est très variable, puis qu'effectivement, va dépendre non seulement du contexte, mais aussi de la présence, avec qui tu vas travailler. Ces gens-là, c'est quoi leurs compétences, leurs capacités, leurs aptitudes, leur potentiel? C'est quoi leur style de leadership? Comment ils filent, ces gens-là? Mm-hmm. Je peux me permettre l'expression. On est tous humains, donc un jour ou l'autre aussi, la vie peut aller très rapidement, peut être changeante, tant dans les contextes que les individus avec qui on interagit étant nous-mêmes. Donc, effectivement, il y a une part de variabilité là, qu'il faut prendre en considération, mais en même temps, qui est aussi incertaine.
Si on revient sur parce que là, je pense qu'on a bien couvert l'approche par compétence, l'approche par talent. Est-ce que c'est possible de nous en parler un peu plus? Puis, je vais même ajouter une couche là-dessus. Pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, ce serait quoi la première avenue à prendre entre les deux?
Oui, c'est une belle grande question. Hein? Par où on commence ou est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on parle des talents des individus pour mm-hmm. identifier les compétences nécessaires ou pour actualiser les gens? Ou on parle de la stratégie de l'organisation et des compétences, puis on met en place cette approche-là qui est structurée? Il y a beaucoup de débats par rapport à ça, puis ça dépend aussi de beaucoup de facteurs, comme on le met en perspective par rapport à la performance individuelle. Il y a aussi des études intéressantes qui mettent en évidence l'importance au-delà des pratiques qu'on va sélectionner. Au-delà de ça, c'est quoi la philosophie qui est sous-jacente, finalement, aux pratiques de gestion des talents et des compétences qu'on va mettre en place? place. Par exemple, il y a des études qui ont été faites qui ont démontré que les philosophies, justement, gestion des talents, ont tendance à beaucoup varier d'un gestionnaire à l'autre. Mm-hmm. Puis, donc, si on n'est pas en accord entre gestionnaires, à savoir, par exemple, si le talent, est-ce que c'est quelque chose de rare ou c'est quelque chose de commun que tout le monde a? Est-ce que c'est prédéterminé puis c'est stable ou non, on peut le développer? S'il n'y a pas de consensus par rapport à cette philosophie-là, bien, ça peut être difficile après ça pour une stratégie, pour une gestion de changement, bien, de la maintenir dans le temps, puis faire en sorte qu'il y ait un sens aussi commun aux pratiques de gestion des ressources humaines qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, souvent dans le continuum gestion de talent, compétences, bien, la gestion des, la philosophie sous-jacente des fois avec la gestion des compétences, c'est de dire que bien, il y a des compétences qui sont rares, qu'il faut aller chercher, donc il faut les dépister dans notre organisation, il faut les identifier, puis après ça, bien, il faut développer les individus à haut potentiel. Il y a ces approches-là d'un côté, mais de l'autre, si on part de la prémisse que tout le monde a des talents, bien, après ça, c'est de dire comment je dépiste l'ensemble de mes talents, puis comment je les transforme ensuite en compétences dans mon organisation. Donc, c'est deux approches qui sont complémentaires. Puis maintenant, bien, par laquelle commencer? C'est une autre bonne question. Ouais. D'autres études ont été faites aussi par rapport à cette philosophie-là un petit peu. Si on prend, par exemple, on imagine un cadran, donc la conception en haut que les talents, dans le fond, c'est quelque chose d'exclusif et de rare versus quelque chose d'inclusif que tout le monde a. Et le continuum gauche-droite où on va se dire, est-ce que les talents, c'est quelque chose de stable ou c'est quelque chose qui peut être développé, qui peut être nourri? Bien, dans ce cadran-là, ils ont évalué 312 gestionnaires sur la mesure de leur positionnement sur ce cadran-là. Puis, bien, c'était également réparti entre les différents cadrans. Puis, il n'y avait pas de différence entre les organisations, par exemple, publiques et privées. Il n'y avait pas une présence plus ou moins grande de l'une ou l'autre des philosophies. Ce qui faisait une différence, par exemple, c'est la grosseur de l'organisation. Puis, plus l'organisation tend à être grande, bien, plus l'approche par compétence, qu'on pourrait appeler dans la définition qu'on a donnée, tend à être présente, tend à être sous-jacente aux philosophies des pratiques de gestion des leaders. Puis, quand c'est des plus petites organisations, il y a souvent davantage cette philosophie-là qui est associée au talent. Mais dans les deux cas, il y a à l'intérieur des mêmes organisations des dissonances au niveau des philosophies en présence, ce qui est tout à fait normal. On a des croyances, des perceptions différentes par rapport à ça. Il y a toutes sortes de mythes. Mais il y a aussi donc la présence de pratiques qui peuvent être divergentes puis qui peuvent nuire au maintien à plus long terme.
Je trouve que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Parce que j'allais te demander aussi justement s'il y a des profils d'entreprises ou d'organisations qui prédisposent davantage à l'utilisation de cette approche-là par talent et compétences. Puis j'imagine qu'une entreprise, plus elle grandit, plus c'est nécessaire de bien évaluer les compétences et les talents parce que sa structure grossit, il y a des postes plus spécialisés. J'imagine que ça a une corrélation aussi.
Bien, absolument. Puis, tu sais, je trouve qu'on peut référer à la notion même de ressources humaines. Hein? Les humains, on les utilise comme des ressources pour créer de la valeur dans nos organisations. Bien, au même titre que des machines ou des technologies, il faut planifier avant de les acquérir, ces ressources-là. Il faut les mettre aussi dans un environnement qui est adapté à eux. Il faut arrêter de penser au fameux mythe là, de développer des personnes polyvalentes. Je veux dire, oui, on va développer la polyvalence, mais à quel prix? Comme humain, on a tous des talents, des forces qui sont innées, des valeurs qu'on souhaite mettre en action. Puis ben, c'est ça qui est associatif au bien-être et à la performance. Puis ça, c'est en lien beaucoup avec ce qu'on va appeler notamment certaines approches par talent qui démontrent des résultats vraiment intéressants là. Par exemple, Gallup, qui est assez reconnue, qui a une typologie très propre à elle au niveau là, de 34 talents, entre autres, qu'on peut retrouver chez les humains, montre que le simple fait d'apprendre leurs forces rend les employés 7,8% plus productifs. Les équipes qui se concentrent sur leurs forces chaque jour ont une productivité 12,5% plus élevée. Puis, à l'inverse, ben, c'est le deux tiers des gens qui ne sont pas capables de normer leurs forces ou leurs points forts.
Oui, puis ça, c'est vraiment intéressant que tu mentionnes ça, Annick. Mais c'est aussi pour les gens qui travaillent en collégialité ou ensemble, connaître les forces des autres, c'est aussi un élément extrêmement important, justement pour bien comprendre c'est quoi la force de l'autre. Puis après ça, ça permet de faciliter un peu les échanges, faciliter le travail, etc. Donc, je trouve ça le fun que tu nous parles de ça aujourd'hui.
Même ce que tu viens de dire, faire du pouce, Nicolas, c'est en plein sur l'idée que je voulais exprimer, c'est que souvent, des gens qui t'entourent et qui t'observent et qui travaillent avec toi vont être en mesure de te qualifier sur des caractéristiques que tu n'avais jamais pas pensé, mais c'est le mot ou la caractéristique, c'est vrai que je suis comme ça ou c'est vrai que j'ai un talent comme ça. C'est les autres qui te permettent souvent de te définir mieux encore.
Pour ça, on parle beaucoup de gestion des talents, de pratiques RH pour gérer les talents. Puis il y en a toutes sortes de très bonnes qui existent, qui sont mises en place avec des succès, évidemment, parfois aussi des échecs. Mais avant de parler de gestion, il faut parler de culture. Hein? Mm-hmm. Donc, puis ça revient à ce que tu disais, Nicolas, créer des équipes polyvalentes plutôt que des personnes polyvalentes, puis encourager l'innovation, le partage des connaissances, la complémentarité des gens. Quand on parle de créer une culture de talent et puis de partage, c'est de reconnaître que chaque humain a un potentiel, chaque humain a des talents, puis quand on utilise l'intelligence collective, on est capable de les faire grandir, ces talents-là. Là, ça peut paraître bien pelleté de nuages que je dis, mais en même temps, c'est ça la base du bien-être individuel, de mettre en action nos valeurs, nos forces et nos talents. Fait qu'il faut qu'il y ait, en quelque part, un morceau de casse-tête qui s'allie avec une approche par compétences qui est les plus organisationnelles et structurées, puis qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on revient à ta question, Sylvain, de le type d'organisation, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien, il y a quatre grandes dimensions à retenir. La culture des talents, c'en est une, mais il y a aussi, de un, se concentrer sur des compétences, avoir un langage commun, puis donner du sens à la stratégie d'entreprise, en avoir une, de un, une mission, une vision, des valeurs qui sont claires, puis découler ça en comportement et en attitude. Puis, bien, veut pas, on s'en sortira pas. En tout cas, c'est pas proche que les robots vont le faire à notre place, du moins pas à court ou à moyen terme, mais il faut associer nos besoins organisationnels avec ce que chaque individu a à nous donner. Puis ça, c'est pas comme des machines, acheter des ordinateurs, tous pareils. Comme humains, on a beau avoir tous les mêmes compétences, être à des niveaux quantitatifs pareils, par exemple, en évaluation de potentiel, mais parce qu'on a tous des forces individuelles, des talents distincts, on va les faire rayonner d'une couleur qui est différente.
Oui, puis ultimement, c'est que si les individus grandissent à cause de ça, c'est que l'organisation va, elle aussi, grandir de ça. C'est ça que je trouve intéressant, là, comme... Par une approche par compétence, mais surtout une approche où est-ce que tous connaissent les forces de chacun, puis on tente de maximiser aussi ces forces-là en milieu de travail. Ça fait que je trouve que c'est bon.
J'aimerais me permettre un exemple. Si on prend par exemple chez nous, chez EPSI, on est plusieurs consultants en gestion des talents. Là, on est, deux ou trois dizaines presque. On est beaucoup. J'exagère peut-être. Mais donc, on est plusieurs consultants en gestion des talents. C'est le même profil de compétences à la base, mais on est tous et chacun différents dans notre couleur, dans notre manière d'actualiser les compétences, dans l'importance qu'on va accorder aussi à certaines compétences. Puis c'est ça qu'on a besoin aussi parce qu'on évolue avec une variété de clientèle, une variété de candidats, une variété d'équipes et d'organisations.
Oui, puis l'humain, à la base, est différent, comme tu mentionnais. Fait que je trouve ça le fun, cette belle complémentarité qu'on peut tous avoir les uns avec les autres. C'est une force, en fait, d'être capable de réaliser ça. Une très grande richesse, effectivement. Moi, j'aimerais revenir sur un point, pour le bénéfice de nos gens qui nous écoutent. L'approche par compétence et l'approche par talent, ça répond à quel enjeu, à quelle souffrance, par exemple, pour une organisation ou un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise?
Oui. Bien, bon, on est dans un contexte, là, je veux pas, là, de pénurie de personnel. Mmh. On sait qu'on l'entend. On sait aussi que la one size does not fit all. Donc, on a beau répertorier certaines pratiques, je veux pas, l'organisation doit les mettre en place et personnaliser. Puis c'est difficile parce qu'ils sont surchargés, on est en pénurie, il y a un manque d'expertise à cet effet-là. Un autre point aussi, c'est qu'il y a plusieurs des pratiques aussi qui sont partagées ou véhiculées. Il faut mettre en perspective que la recherche, elle se fait rarement en PME. Puis que c'est quoi, 95-96% des organisations au Canada qui sont des PME. Donc, il y a vraiment un effort de vulgarisation à faire par rapport aussi à ce que, justement, on va reconnaître comme les bonnes approches en gestion de talent et de compétences. Des fois, ça peut sembler très complexe, très structuré, très laborieux aussi à mettre en place, puis ça peut l'être effectivement. Donc ça, c'est un autre défi. Puis j'ajouterais aussi, c'est encore Gallup qui mettait en perspective une étude en 2018 qui disait que c'est 87% des milléniaux et 69% des générations plus âgées qui déclaraient que la croissance professionnelle ou de leur carrière, les opportunités de développement, c'était ça la préoccupation principale à l'intérieur d'un emploi. Fait que dans ce contexte-là, puis sachant aussi que les besoins fondamentaux de nos gens en lien avec justement les besoins psychologiques, c'est de savoir à qu'est-ce qu'on s'attend de moi, qu'est-ce qu'il faut pour que je fasse bien mon travail et que je puisse progresser, comment je peux utiliser le meilleur de moi-même à chaque jour, comment me sentir reconnue. C'est des défis que nos organisations ont de la difficulté à identifier. Si on dit que 2/3 des gens ne le savent pas, bien, les gestionnaires aussi ont de la difficulté à l'identifier, à mettre en place des bonnes pratiques. Donc, ça peut répondre à plusieurs de ces défis.
Puis j'allais demander justement si j'étais chef de PME, d'entreprise, admettons une entreprise d'une soixantaine de personnes qui est en croissance, qui a un potentiel de croissance. Puis je demandais à Nick, c'est super intéressant ce que tu me présentes. C'est quoi en tant que tel les différents impacts concrets que ça va me donner si j'introduis cette culture-là et cette approche-là? C'est-tu des impacts sur la fidélisation, sur le bonheur au travail? À quoi tu résumerais les impacts de cette approche-là pour mon organisation?
Sous deux angles, l'approche par compétences, on le dit, puis il y a plusieurs études qui l'ont démontré, c'est la stratégie la plus efficace en gestion des ressources humaines pour augmenter la performance organisationnelle et donc c'est des pratiques RH. Donc, si on adopte un référentiel commun, un langage commun des compétences, qu'on structure nos pratiques d'attraction, de sélection, d'affectation, d'implication, de développement, de gestion du rendement, même de la rémunération autour d'un langage commun, c'est plus efficace. Tout le monde parle le même langage. Donc, l'efficacité, c'est vraiment un grand enjeu, une grande résultante de l'approche par compétences. Puis, au point de vue individuel, ben c'est beaucoup plus facile pour moi si à l'intérieur de mon rôle, mes compétences, j'ai accès aussi à un langage pour mieux définir ces attentes-là en termes de compétences, savoir comment je peux me développer, avoir des outils, des plans de formation associés aux compétences qui sont accessibles. Donc, pour les organisations, pour les individus, il y a beaucoup d'avantages au niveau de l'efficacité, si j'avais à en souligner un principalement, de le mettre en place. Puis, au niveau de l'approche par talent, ben c'est intéressant ta question parce que les résultantes en lien avec ça, c'est beaucoup orienté vers le bien-être et la performance individuelle. Hein? Puis, bien, veux pas, si on veut créer des équipes et des organisations performantes, je reviens avec la notion de machine, mais il nous faut des machines de bonne qualité. Un individu qui est en qualité, qui a une bonne qualité de vie, c'est aussi quelqu'un donc, qui reconnaît, qui se fait reconnaître ses forces, puis qui a la chance aussi de les actualiser au travail. Une autre statistique intéressante, ça, c'est seulement 17 % des gens qui croiraient avoir généralement la chance de mettre à profit leur talent au travail. C'est pas beaucoup.
Il y a des impacts quantitatifs et qualitatifs de cette approche-là.
Pour
l'entreprise, c'est hyper important parce qu'il y a quand même des préoccupations de pérennité, de productivité. Puis je ne parle pas de la productivité poussée, mais il y a un impact. Puis l'idée que s'il s'occupe bien de l'humain, puis il les a bien choisis, il les a bien développés, ça a des impacts hyper positifs.
Puis les impacts quantitatifs, on a tendance à les oublier des fois en ressources humaines. C'est peut-être un petit peu moins un angle qui est développé, hein, de prendre ce réflexe-là, de mesurer l'impact de nos façons de faire. Puis pourtant, ça peut se faire. Encore là, ça, je ne dis pas que c'est simple nécessairement à calculer le retour sur investissement d'approche par compétences et par talent, mais c'est pas impossible à faire.
Mais on peut avoir des indicateurs de départ qui nous permettent dans le temps, après un an, après deux ans, voir l'évolution sur certaines choses clés. Là.
Mesurer l'engagement aussi.
L'engagement, oui, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait, l'engagement, c'est probablement un des critères les plus parlants dans ce sens-là. Puis on sait que l'engagement, il y a quand même une corrélation assez forte entre l'engagement et la performance d'une organisation aussi. Là. Je pense qu'on peut quand même se dire, parce que souvent on entend « Ah, bien, l'approche par compétence, l'approche par talent, c'est un coût, c'est une dépense », mais je pense qu'il faut vraiment le voir plutôt comme un investissement. C'est un élément qui va permettre d'avoir un gain au niveau de la performance, de la productivité, mais ultimement, d'avoir une main-d'œuvre qui va parler le même langage puis qui va être plus heureuse et engagée au travail. Donc, pour ces gens-là là, qui sont un peu réfractaires à aller de l'avant avec de telles approches, est-ce que tu aurais peut-être un dernier pitch pour leur dire « Hey, allez-y, ça vaut la peine. »
Faire un budget, c'est pas comme faire un état financier. Hein? Il n'y a pas personne qui va s'assiner là-dessus qu'un minimum de connaissances en comptabilité. Faire une analyse FFOM ou PESTEL en stratégie, c'est pas la même chose. Ben, une approche par talent, une approche par compétence, c'est pas non plus la même chose. Et comme les outils que j'ai mentionnés, ben, il y a des bonnes pratiques, des structures qui existent pour mettre ça en place. Faut pas le sous-estimer. C'est tout à fait normal de pas savoir par où commencer, de manquer de temps et de compétences pour mettre ça en place. C'est des expertises aussi. Là. Ben, justement, s'il y a des investissements, il y a des subventions aussi qui sont beaucoup très disponibles, surtout au Québec, pour aider les organisations, les municipalités, les petites entreprises, les PME, les plus grandes, les organismes à mettre ça en place. Donc, oui, c'est un processus qui est plus à moyen et à long terme, mais peu importe par quelle approche qu'on prend, c'est important que dans la stratégie d'entreprise, ben, il y ait une stratégie au niveau de la gestion des ressources humaines, une philosophie qui soit donnée, puis ben, qu'on développe des pratiques gagnantes autour de ça.
Tout à fait.
Super. Annick Demers, merci beaucoup d'avoir participé au temps d'une pause RH aujourd'hui. Sylvain, toujours un plaisir, semaine après semaine.
Merci.
Chers auditrices, chers auditeurs, c'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.